Fréquence Mistral.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% foot spécial Europe. Pour m'accompagner pendant 7 heures, Titi. Salut Titi.
Salut Thierry. Voilà. Bonjour à tous.
Titi qui est de retour parmi nous pour évoquer toute l'actualité européenne et championnat, la Coupe. Voilà, on va vous faire passer une petite heure de foot avec toute l'actualité qui s'est déroulée le week-end dernier et ces jours-ci. Voilà, mais juste avant d'attaquer, je voulais juste faire une petite parenthèse France et Ligue 1 avec la situation de l'Olympique de Marseille, voilà, qui est quand même assez critique. Et juste on est à trois jours d'un match très important avec la réception de l'OGC Nice au Vélodrome dimanche soir. L'OGC Nice qui a décroché son billet pour la finale de la Coupe de France le 22 mai prochain face à Strasbourg hier soir à la Méno en gagnant 2-0 grâce à un doublé de Eli Wahi, l'ancien Marseillais. Titi, toi, comment tu vois cette fin de saison pour les Marseillais?
Très compliqué. Voilà. On est dans une situation qui est pas facile parce qu'on a un effectif qui est complètement rincé physiquement, avec des tensions en interne dans le groupe, avec Habib Bey, avec Benassia. Mentalement, je trouve qu'ils n'y sont plus trop. Et la sortie médiatique du directeur du football la semaine dernière après la défaite contre Lorient, je trouve que elle est plus négative que constructive et positive pour le groupe, parce que là, avec ce qu'ils ont mis en place là, avec les doubles séances en début de semaine, la mise au vert jusqu'à dimanche, là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, avant le match de Nice, je pense que ça peut être contre-productif. Et les joueurs, si tu les taquines de trop et que tu ils sont pas spécialement contents de leur situation personnelle, ils risquent de te le faire payer sur le terrain dimanche soir. Et je pense que contre Nice, on n'a pas gagné.
Ouais. Et il y a eu aussi cette sortie médiatique de Facundo Medina, défenseur argentin qui était absent au Moustoir à Lorient samedi, qui a accordé une interview à Florent Germain de RMC pour... en partie stigmatiser l'attitude de certains cadres comme Benjamin Pavard ou le capitaine Pierre-Emile Højbjerg, de cadres et de tauliers de cette équipe qui n'ont pas vraiment joué leur rôle de taulier, entre guillemets, sur ce match à Lorient samedi dernier.
Oui, non, mais enfin, je la trouve un peu... je ne sais pas quoi trop penser de cette sortie-là, parce que je ne la trouve pas sincère. Je pense que si, au nom du groupe, s'il y a quelqu'un qui doit parler à la presse par rapport à tout ce qui se passe actuellement, c'est au capitaine, c'est à Pierre-Emile Højbjerg de parler, et pas à Facundo Medina. Donc, je ne sais pas, on va voir. C'est mettre de l'huile sur le feu et apporter des nouvelles tensions pour le match de dimanche. Donc, c'est à double tranchant, c'est sorti médiatique.
Toi, tu étais à la Commanderie ces jours-ci, tu as eu l'occasion de voir les joueurs avant cette longue mise au vert de trois jours.
Hier soir, à la sortie, oui, mais après, les joueurs, devant les supporters, ils sont toujours avec le sourire, ils disent que ça va bien, mais c'est compliqué. Mais déjà, le problème de quand tu es rincé physiquement comme ça, mentalement, tu n'y es plus, que les joueurs, il y en a la majorité, ils sont déjà plus au club par rapport à tout ce qui s'est passé, les déceptions, que ce soit en Coupe de France, en Champions League, en championnat, la motivation, je ne sais pas si elle est toujours là, et on le voit dans les matchs. Rien que déjà la semaine dernière contre Lorient, une équipe qui a assuré son maintien, qui était déjà pratiquement en vacances, ils nous ont marché dessus, nous on a même pas existé. Donc Le souci, c'est le mental. Et quand le mental ne suit plus, c'est compliqué de se remotiver, parce que même si tu veux faire quelque chose de positif, ton corps ne suit pas. Et même si tu rencontres là Nice qui est en course pour le maintien, parce que leur maintien, il n'est pas assuré, ils vont avoir les dents longues dimanche au Vélodrome. Et avec les déplacements à Nantes et au Havre et la réception de Rennes, qui va jouer la qualif pour la Champions League, eh ben, bon courage.
Ouais, surtout qu'en plus, moi, je me faisais la remarque, depuis que Abibay a quitté le stade Rennais, que Francaise a pris le relais, les Rennais accusaient 8 points de retard et aujourd'hui, l'OM est 6e de ce classement de Ligue 1 et le stade Rennais est 5e avec un point d'avance sur l'Olympique de Marseille.
Ah ben moi, je serais, moi, je prendrais une décision radicale. Je ne finirais même pas la saison avec Abibay. Je nommerais un entraîneur pour les 4 dernières, les 4 dernières journées là, pour essayer de sauver ce qu'il est sauvable, pour essayer de faire une qualif européenne. Parce que je ne parle même pas de la Champions League. Hein, parce que maintenant, avec Lille, Rennes qui est devant, Lyon qui est devant... Ben maintenant, il va falloir compter sur leurs faux pas et que nous, on gagne tout. Donc, c'est pas gagné d'avance. Donc, puis le problème, c'est que par rapport à ses choix tactiques, ce qu'il met en place, c'est compliqué. Les joueurs, ils adhèrent pas. Ils ont plus envie. Et puis, il y a une grosse majorité de l'effectif qui a pas supporté et n'ont pas encore accepté le départ de
Roberto De Zerbi.
De Roberto De Zerbi, parce que tu avais la majorité des joueurs de cet effectif qui sont venus à l'OM pour lui. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est je pense que c'est compliqué pour les joueurs.
Là, apparemment, on remet en cause aussi la façon de travailler de Abibay, parce qu'apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait travailler au cours de ce stage en Andalousie la semaine dernière, mais bon... On a vu que Quentin Timber, qui est une des bonnes surprises de ce mercato hivernal, n'a pas joué et s'est blessé la veille du match.
Igor Pachao qui sera probablement indisponible
pour...
Je ne pense pas que ce soit une grosse lésion, parce que si c'était une grosse lésion au mollet, je pense que l'absence serait plus longue.
Il a quitté ses coéquipiers à la mi-temps lors de ce match à Lorient.
Mais c'est compliqué de refaire des séances encore plus intensives que ce que faisait Roberto De Zerbi en cette fin de saison.
Surtout à ce stade de la saison, quatre journées de la fin, en sachant qu'il reste trois semaines de compétition.
Quand tu sais que déjà ta préparation d'été estivale, elle a été complètement foirée parce que tu as la majorité du groupe qui n'était pas là, que tu as des joueurs qui sont arrivés sur le tard, entre guillemets, qu'on fait des préparations individuelles, mais sans forcer physiquement. Et on l'a payé toute la saison, ce retard de préparation. Et le premier match à Rennes, on s'était fait marcher dessus physiquement parce qu'on n'arrivait pas à tenir le pressing, le contre-pressing. Et puis finalement, tu perds à la fin du temps réglementaire pratiquement à Rennes. Et derrière, c'est cette série de mauvais résultats qui s'enchaînent tout au long de la saison. Et tu as bu le bouillon contre des équipes que normalement, logiquement, si ta préparation elle est réussie, tu dois leur marcher dessus, comme on dit, dans le milieu du ballon.
Et là, cette année, ça sera encore plus compliqué avec une grande compétition internationale, en l'occurrence la Coupe du Monde. Donc... pour les organismes et pour les joueurs qui reprendront le chemin de l'entraînement
tu fais très, très bien de le souligner. Déjà, il y a ça. Il va y avoir la place finale au classement et savoir pour quelle
compétition. Parce que là, pour quelle compétition européenne, on sera qualifié la saison prochaine.
Quel joueur va vouloir venir à l'OM pour la saison prochaine? Déjà, qui va partir? Et quels joueurs vont rester? Déjà, il y a déjà plein de joueurs en prêt qui vont revenir.
Ça va conditionner la fin de saison et préparer la saison prochaine.
Déjà, ça va nommer un nouvel entraîneur, nommer un nouveau directeur sportif. Enfin, il y a encore énormément de chamboulements qui vont intervenir tout au long de la période estivale. Hein. Donc, nous qui demandons de la continuité,
de la stabilité,
c'est pas encore à l'intersaison qu'on va l'avoir à l'Olympique de Marseille. Donc, je sais pas, je pense que ça va être compliqué. Et puis, on risque aussi d'avoir certainement, s'il n'y a pas de qualification européenne, une désertification du nombre d'abonnés.
Ouais, ça aussi, ça va être
au
important.
Stade Vélodrome, parce que quand tu vois les résultats, tu as un nombre incalculable de supporters qui ne veulent plus mettre les pieds au Vélodrome. Ils nous ont écœurés. On y va parce que on va voir les amis, on discute. En ce moment, on discute plus avec les amis quand on est au stade que de regarder les matchs parce qu'ils ne nous proposent rien. Quoi. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire leur campagne d'abonnement pour attirer les supporters. Mais...
Là, il y a beaucoup de supporters qui sont dégoûtés et écœurés et qui sont prêts à ne plus aller au stade. Sachant qu'il reste encore deux rencontres d'ici la fin de saison avec la réception de Nice dimanche et le stade Rennais dans trois semaines.
À la dernière journée, mais tu l'as vu déjà contre
Metz.
Contre Metz. Bon, alors, le nombre de spectateurs... Il est élevé parce qu'il compte tous les abonnés, mais il y avait plein de places, il y avait des trous partout.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chutes. Il y a encore beaucoup de chantiers en cette fin de saison, et puis ça sera une intersaison très mouvementée avec beaucoup de chamboulements au niveau de l'effectif, de l'organigramme. Donc, on aura l'occasion d'y revenir.
On va pouvoir y revenir.
Il y aura de quoi dire. Hein. Voilà. On va refermer cette parenthèse France et Ligue 1. On va attaquer le Tour d'Europe avec d'abord la Première Ligue, championnat anglais, avec une journée de championnat qui s'est déroulée le week-end et une autre journée encore qui a démarré hier. D'abord, un petit mot sur les débuts de Roberto De Zerbi avec Tottenham, qui a concédé le match nul à domicile face à Brighton, son ancien club, 2-2 avec une égalisation à dernière seconde.
Ah ouais, dans les arrêts de jeu, sur les 6 minutes d'arrêt de jeu que l'arbitre avait mis, ils n'ont pas de chance parce que Simon avait marqué un magnifique but pour donner l'avantage à l'équipe de Roberto De Zerbi. Mais je pense que... Il peut arriver à les sauver sur la fin de saison parce que tu peux pas tout chambouler comme ça du jour au lendemain et en un claquement de doigts, les joueurs répondent du tac au tac avec la nouvelle tactique méthode de l'entraîneur. Donc je pense qu'ils sont capables de gagner sur les prochains matchs et se maintenir en Première Ligue.
Ouais, les Spurs de Tottenham qui occupent la 18e place de ce championnat, en sachant que le Burnley, qui est juste derrière, est officiellement relégué en Championship hier. Et Wolverhampton aussi.
Avec un Marseillais qui va revenir à la fin de saison. Angel Gomez
qui est parti au mercato hivernal et qui fera son retour sur les bords de la Méditerranée à Marseille à l'intersaison. Voilà. On va passer avec... notre match, la victoire de Manchester City contre Arsenal lors de ce
match très 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 plaisant avec beaucoup d'intensité et tu as vu la supériorité de City sur cette rencontre avec encore un Ryan Cherki étincelant
avec un super but une ouverture du score pour les Citizens.
Voilà. Et Erling Haaland qui marque le second but. Non, mais c'est Arsenal arrive avec un trou physique et mental au plus mauvais moment de la saison.
Ils ont déjà perdu la Coupe de la Ligue juste avant la trêve face à cette même équipe de Manchester City. Ouais. Et ils se sont fait éliminer de la Coupe d'Angleterre, la Cup, face à Southampton. Et là, ils vont jouer une demi-finale de Ligue des Champions avec la réception de l'Atlético Madrid la semaine prochaine lors du match aller à l'Emirates. C'est compliqué pour les joueurs de Mikel Arteta en cette fin de saison.
C'est plus que compliqué. Alors maintenant, j'espère qu'ils vont réussir à redresser la barre et à regagner les matchs parce que par rapport à la saison qu'ils ont fait, ça serait logique qu'ils gagnent le titre de cette Première Ligue parce qu'ils ont été en tête tout le temps quoi.
Ouais.
Donc ça serait catastrophique pour eux de s'effondrer comme ça si près du but et de voir le titre rejoindre Manchester City une nouvelle fois. Donc j'espère pour eux que ce week-end ils vont réussir à gagner.
Ouais. Ce week-end, il y aura de la Cup pour Manchester City qui jouera justement face à Southampton qui les a éliminés, qui a éliminé cette équipe des Gunners au tour précédent. Voilà, cette équipe de Southampton qui est en haut tableau du Championship, mais qui n'est pas une équipe.
Non, puis après City est au-dessus, donc je pense que. Logiquement, City devrait gagner cette rencontre. Donc, ils ont été éliminés de la Champions League. Là, ils sont focus sur la fin de championnat et de vouloir gagner le titre. Et puis de gagner une coupe en Angleterre. Donc, je pense qu'ils vont tout donner. Ils vont gagner.
Ouais. Arsenal qui recevra Newcastle à l'Emirates samedi à 18h30.
Pas facile, parce que Newcastle, même si hors de Saint James Park, ils ont eu beaucoup de mal à gagner des matchs, mais souvent, ils rendent la tâche bien compliquée à l'équipe qui reçoit quand ils se déplacent, et ils n'auront pas un match si facile que ça.
On va passer aussi à une autre équipe londonienne, Chelsea, qui a viré Liam Rosenior, l'ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg, qui est arrivé en janvier, voilà, 4 mois après, on peut dire que depuis l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions face au PSG, il était très très fragilisé, l'ex-entraîneur du Racing Club de Strasbourg.
Le problème, c'est que d'arriver comme ça au mercato hivernal, enfin en janvier là, à Chelsea, alors il a pas eu beaucoup de choix, puisque de toute manière il appartient au groupe. Au club de Chelsea.
Blue Co. Ouais. Les actionnaires. Et d'ailleurs, il y a eu avant le match face à Manchester United, les supporters de Chelsea ainsi que des supporters du Racing Club de Strasbourg ont manifesté contre l'actionnaire Blue Co, détenteur de clubs.
Mais c'est.
Multipropriété dans le foot, c'est en Angleterre, c'est compliqué.
C'est bien et c'est pas bien. Le problème, c'est voilà, il arrive dans un club renommé en Angleterre avec un effectif plus que débordant. C'est pas lui qui a fait le groupe là pour cette saison. Il arrive là alors qu'il était très très bien à Strasbourg.
Il est arrivé en cours de saison, il a récupéré un effectif qui a commencé la saison sous les ordres de Enzo Maresca, qui a été viré fin décembre.
C'est à double tranchant quand tu es dans un club où il y a une multipropriété et que le club principal te réclame, mais tu y vas et finalement ça n'a pas fonctionné. C'est toi qui paye les pots cassés parce qu'il se retrouve sans club. Bon, après, je ne me fais pas de soucis pour lui, il retrouvera un club, mais. Je pense que s'il était il avait fini la saison avec Strasbourg et qu'il était, par exemple, parti sur Chelsea avec une intersaison estivale, un effectif, que ce soit lui qui demande les joueurs qu'il a envie. Et là, tu payes les pots cassés parce que le groupe n'a pas adhéré à ta méthode et tu te retrouves viré à 3 ou 4 journées de la fin, quoi.
Ouais. Chelsea qui a encore la Cup à disputer, puisque il y aura la réception de Leeds dimanche à 16h.
Ouais, mais c'est pareil. Mentalement, ils sont comment, les joueurs, voilà. Parce qu'ils ont quand même un bel effectif aussi, mais quand ça ne veut pas tourner, ça. Peut-être parce que Leeds, en ce moment, ils ne sont pas trop, trop mal, même s'ils sont.
Pour les joueurs de Chelsea, ils ont essuyé un cuisant revers sur la pelouse de Brighton 3-0 mardi. Et juste avant, il y a eu cette défaite aussi face à Manchester United.
À domicile. Mais c'est compliqué.
Il y a eu une défaite face à Manchester City aussi, 3-0.
On dit toujours c'est que les joueurs, quand ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus garder un entraîneur, ils ne jouent plus et c'est ce qui se passe, tu peux pas virer un effectif complet, donc c'est plus facile de virer un entraîneur. Mais à voir la réaction des joueurs ce week-end en Cup là, contre Leeds, c'est voir s'il y a une réaction et que Chelsea arrive à regagner, quoi.
Ouais. Voilà, on va refermer cette page anglaise. On va parler un peu d'Espagne et d'abord de Liga. Et d'abord la Coupe d'Espagne avec la victoire de la Real Sociedad
Contre
contre
l'Atlético, ouais, au
l'Atlético
penalty.
au tir au but. Voilà. Après un match nul 2-2 à la fin des prolongations.
Et ben oui, je trouve que l'Atlético, depuis leur qualification contre le Barça
En Ligue des
en
Champions.
Champions League, ben ils sont un peu dans le trou physiquement et ils ont un peu de mal. Donc, parce que même hier
En championnat, ouais, justement,
en
on va parler
Liga.
aussi de la Liga. Ils ont perdu avec
Un
une équipe
but
largement remaniée
nié, ouais.
de
Moi,
la
je pense
part
que
de
de toute manière,
Simeone.
ils sont en train
Ouais, mais c'est... Ouais.
de préparer cette demi-finale. Donc,
Ils ont perdu face à Elche en
Elche
Liga
3-2, ouais.
hier, 3 buts à 2.
Ouais. Et non, je pense qu'ils ont plus la tête
Arsenal.
à cette demi-finale contre Arsenal. Et même là, alors même si c'est toujours important de gagner un titre avec cette Coupe d'Espagne, je pense que même après cette qualification là contre le Barça, ils avaient déjà la tête à cette demi-finale. Donc physiquement, mentalement, je pense que les joueurs, ils ont peut-être tiré le frein à main et qu'ils sont en train de se préparer pour ce grand événement pour eux.
Et malheureusement, Antoine Griezmann, face à ses ex-coéquipiers de la Real
La Sociedad
Sociedad,
n'a pas gagné la coupe.
voilà. Et lui, qui avait été sorti avant, n'a même pas pu tirer un
Ouais,
tir au but pendant cette séance.
non, mais après, voilà, c'est le football, c'est comme ça, c'est le charme de la coupe.
Voilà. On va parler maintenant de Liga avec des matchs qui ont eu lieu hier avec l'Athletic Bilbao qui a battu Osasuna 1-0. Bon, on vous épargnera le résumé. Aussi, il y a Mallorca et Valence qui ont fait un but partout à l'occasion de la 33e journée. Et aussi, les matchs qui ont eu lieu le week-end. Le Real Madrid qui a battu le Deportivo Alavés 2 buts à 1.
Ouais, difficilement encore, hein. Ils ont
Cette équipe du Real qui a été sortie de la Champions League la semaine dernière face au Bayern.
après un match épique, ils ont encore un petit pourcentage de chances de pouvoir être champion, mais ça va être compliqué pour eux, hein, parce que Arbeloa, je pense qu'il n'a pas du tout
Le costume
le charisme
d'entraîneur
et
est
le
peut-être trop loin.
charisme, ouais, le charisme pour entraîner le Real Madrid par rapport à la renommée du club et tout. Donc, c'est possible qu'il soit encore pas champion d'Espagne cette saison et il risque de laisser filer le Barça vers un nouveau titre.
Ça va être une saison en blanche pour la Maison Blanche, donc
Ouais, mais
voilà,
ils ont
cette année.
tellement gagné.
Et ouais.
Des fois, faut savoir manger son pain noir avant de regagner.
Le Barça qui a battu le Celta Vigo hier soir
1-0.
1-0 avec un pénalty de Lamine Yamal qui est sorti juste après sur
Sur ça,
blessure.
ben sur la frappe, il se blesse.
Voilà, en tirant
Ce
ce
penalty,
pénalty.
ouais.
Voilà. On parle
Et
de
fin de saison.
fin de saison pour lui avec le Barça
Alors, je pense que c'est quand
et
même
peut-être grosse inquiétude au niveau du staff de la sélection espagnole
c'est
pour.
une blessure au niveau du quadriceps. Et je pense qu'il y a la peau névrose qui est touchée et que peut-être qu'il y a une grosse déchirure et que ça risque de durer peut-être quelques semaines. Et que déjà, ils ont annoncé, là, j'ai vu tout à l'heure, fin de saison sur la Liga, mais derrière, il y a la Coupe du
Il
Monde,
va
quoi.
rater le Classico le 10 mai prochain avec la réception
Mais
du
après,
Real au Camp Nou.
il y a la Coupe du Monde, attention,
Il
hein.
y a la Coupe du Monde avec la sélection espagnole et voilà,
Mais
c'est quand même un objectif
c'est le problème.
pour l'Espagne et pour lui à titre personnel. Hein.
Et oui, mais c'est le problème de faire débuter alors attention, hein, des talents purs, des diamants même, hein, et de les faire jouer sans arrêt. Il a 16 ans, 17 ans, il avait déjà plus de 100 matchs en Liga. Et physiquement, par rapport.
On rappelle pour nos auditeurs Lamine Yamal qui est à peine âgé de 18 ans
Eh oui,
et qui est déjà au plus haut niveau depuis
plus de 2
pratiquement
ans.
plus de 2 ans.
Eh oui,
Donc
donc
avec l'enchaînement des matchs au niveau club
l'intensité
et
physiquement,
sélection.
ce que les entraînements, ce que l'entraîneur demande, la difficulté de mettre autant d'intensité toutes les semaines, c'est compliqué. Même en étant jeune, ben, il n'est pas à l'abri de graves blessures sur les saisons à venir. Et il faut faire attention parce que ben, le corps humain, c'est pas, on n'est pas des robots, quoi.
Et c'est vrai qu'en plus, cette année, le Barça n'est pas trop... a quand même beaucoup de blessures avec Lamine Yamal qui vient se rajouter. On a vu Jules Koundé, y a Frankie de Jong qui a été blessé, Robert Lewandowski. Bon, même si c'est des joueurs qui sont quand même plus âgés que Lamine Yamal.
Oui, mais après, c'est que... jeune ou moins jeune, de toute manière, quand, par rapport à tout ce qu'on te demande, la charge de travail qu'il y a, c'est, à un moment, ça pète. Hein.
Il y a aussi Rafinha qui s'est blessé lors de la dernière trêve internationale avec le Brésil. Donc, ça fait énormément d'absents pour cette équipe du Barça et pour Hansi Flick.
Et puis après, même pour un jeune, alors sur les joueurs, par exemple, comme Lewandowski, c'est peut-être moins gênant parce qu'il doit avoir une hygiène de vie irréprochable. Mais Lamine Yamal, on a mis... En vergue, son comportement sur ses soirées, sur l'extra sportif, faut faire attention hein, parce que ton outil de travail, c'est le corps humain. C'est pas une voiture ou une moto ou un accessoire extérieur. C'est toi là. Et si tu respectes pas ton corps, ben il y a des alertes. Et si tu fais pas attention aux alertes, ben la sanction elle tombe.
C'est peut-être la starification qui est arrivée trop tôt qui fait qu'il peut être amené à faire des excès assez jeunes.
Je suis d'accord avec toi, mais si tu veux durer, être pratiquement jamais blessé, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable.
Et c'est vrai qu'en plus, la carrière d'un footballeur et d'un joueur est relativement courte. Donc, si on se brûle et qu'on se grille les ailes...
C'est comme une voiture. Si tu l'entretiens, tu l'amènes loin. Si tu ne l'entretiens pas, tu es souvent embêté. Tu l'emmènes souvent au garage.
Voilà. On va passer à l'Allemagne, la Bundesliga, avec... le Bayern qui bat tous les records avec un 35e titre et une belle victoire à l'Allianz Arena ce week-end dimanche 4-2.
Voilà. Non, c'est ils ont fait une saison là avec l'entraîneur. J'aurais jamais pensé qu'il soit aussi.
Vincent Kompany qui est à la tête des Bavarois depuis deux saisons.
Hein. Il était déjà exceptionnel en joueur quand il était défenseur central à City. Et là, en tant qu'entraîneur, je le trouve même en tant que jeune entraîneur, parce qu'il a fait ses gammes, je ne sais plus où il a commencé avant d'arriver au Bayern. Il était.
Il a joué en Bundesliga, en Bourg. Il a joué à Anderlecht.
Non, mais en Anderlecht au début.
En Belgique, à Bruxelles.
Voilà. Ouais. En tant qu'entraîneur, c'est quand il a commencé à entraîner et d'arriver comme ça directement au Bayern, ça prouve qu'il est plus qu'armé pour entraîner des grands clubs. Donc. Chapeau à lui et maintenant il est toujours en course pour un triplé historique. Je pense que le doublé il est déjà pratiquement assuré puisque ils ont gagné hier soir
en Coupe d'Allemagne,
en demi-finale de Coupe d'Allemagne contre les Leverkusen
2-0 sur la pelouse du Bayer Arena avec un but de Harry Kane
et avec la blessure de Gnabry, je crois, non?
Oui, Serge Gnabry qui a d'ailleurs déclaré forfait pour la Coupe du Monde. Voilà, le milieu de terrain du Bayern qui ratera la Coupe du Monde avec la Nationalmannschaft.
L'enchaînement des matchs, les blessures, elles arrivent automatiquement. Et derrière, il va y avoir cette demi-finale contre le Paris Saint-Germain en Champions League. Maintenant, elle approche à grands pas, c'est la semaine prochaine.
Mardi prochain, première manche sur la pelouse du Parc des Princes.
Donc, on va voir ce qui va se passer mardi prochain, mais... je mettrais bien une petite pièce quand même sur en tant que supporter de l'OM, on va mettre une petite pièce sur le Bayern.
Voilà, le Bayern donc qui s'est imposé hier soir sur la pelouse de la Bayer Arena de Leverkusen 2-0 avec un deuxième but justement de Luis Diaz, l'international colombien qui va retrouver le Paris Saint-Germain et Achraf Hakimi qui l'avait blessé au mois de novembre dernier. Voilà, Les Bavarois qui connaîtront leur adversaire pour cette finale qui aura lieu le 23 mai au Stade Olympique de Berlin ce soir avec Stuttgart qui accueille Fribourg dans cette deuxième demi-finale. Et peut-être que cette finale de Coupe d'Allemagne, ce sera un remake de ce qu'on a vu le week-end dernier à l'occasion du 35e titre.
À moins
de
que Fribourg
crée la surprise.
Crée la surprise, ouais. On ne sait jamais. Hein, avec les clubs allemands, des fois...
Voilà. Mais bon, la Stuttgart est actuellement quatrième de Bundesliga.
Je pense que la défaite 4-0 contre Strasbourg la semaine dernière en Conference League a fait du mal à... Ah non, c'est
Mayence.
C'est Mayence.
C'est Mayence, oui.
Ouais. Je confonds, oui. Mais Fribourg, c'est une belle équipe quand même et ils peuvent faire une surprise. Hein. Après, ça va dépendre ce que Stuttgart veut faire. S'ils veulent aller en finale de la Coupe d'Allemagne, je sais pas.
Justement, tu parlais de Mayence qui a été éliminé en Conference League par Strasbourg. Ce sera le prochain adversaire du Bayern le week-end prochain. Et là, il y aura un large remaniement de la part de Vincent Kompany, justement dans la perspective de cette demi-finale de Ligue des Champions qui les attend mardi prochain sur la pelouse du Parc des Princes.
On l'a vu il y a quoi, il y a 8 jours, 10 jours, et il avait fait déjà un gros remaniement, Vincent Kompany, quand ils ont été joués à Fribourg, puisqu'ils perdaient 2-0, ils ont gagné 3-2, donc... non, ils ont un très bel effectif, donc je me fais pas de soucis pour eux. Ils sont même avec une grosse équipe remaniée, ils sont capables de gagner contre Mayence.
Oui, c'est vrai qu'après, il peut se permettre de mettre des cadres au repos, puisque là, déjà, on avait vu face à Stuttgart, il y avait pas mal de titulaires au repos. Je crois qu'il n'y avait que Joshua Kimmich qui était titulaire devant. Et puis bon, après, c'est vrai que c'est un choix de riche qui s'offre à Vincent Kompany, l'entraîneur belge du Bayern. Voilà, on va parler encore un peu de Bundesliga et d'Allemagne avec le championnat et la défaite de Dortmund, dauphin qui a perdu Bayern, contre Hoffenheim ce week-end. C'est compliqué pour les joueurs de Niko Kovac.
Ça a été une saison en dents de scie pour Dortmund. Logiquement, ils auraient dû se battre pour le titre jusqu'à la fin de saison. Et cette défaite à Hoffenheim là, qui offre le titre au Bayern. Donc, à voir ce qui va se passer sur l'intersaison. Mais j'ai trouvé l'équipe de Dortmund là, moins forte que les saisons passées. Ah. Alors, après, j'avais pas spécialement suivi les mouvements à l'intersaison estivale quand ils avaient perdu énormément de joueurs. Il y avait déjà Wirtz qui est parti à Liverpool, non, la saison.
Non, Wirtz, il était à Leverkusen.
Ah, Leverkusen, oui. Ouais. Je confonds. C'est, ouais. Non, après, je ne suis pas trop les mouvements en Bundesliga. Et j'ai possible qu'ils aient perdu des joueurs et qu'ils, finalement, ils n'ont pas réussi à retrouver...
Là, il y a quand même 15 points de retard entre le Bayern qui vient de remporter le titre.
C'est la différence entre pareil qu'en Ligue 1, entre le PSG généralement et son suivant. Quand ils font... qui gagnent pratiquement tous les matchs, il y a cet écart-là aussi en Ligue 1.
Un petit mot aussi sur Leipzig qui occupe cette troisième place de Bundesliga.
Ouais, ils reviennent bien parce qu'ils ont eu un gros passage à vide. Ils n'arrivaient plus à gagner un match et là, ils reviennent bien sur cette fin de saison et ils enchaînent les victoires. Donc, chapeau à eux parce que je ne les aurais pas mis troisième de la Bundesliga, mais avec une qualification là, directe pour la prochaine Champions League. Donc, c'est bien parce que c'est un bon petit club, Leipzig. Ah,
il y a de bons joueurs. Il y a Castello Luqueba, qu'on a bien connu en France du côté de l'Olympique Lyonnais. Puis bon, c'est l'ancien club aussi de Luis Openda, parti en Italie à la Juve aussi. Mais bon, après, il y a de très bons joueurs. Il y a Moussa, qu'on suivra à la Coupe du Monde avec la sélection norvégienne, puisqu'il affrontera l'équipe de France aussi. Et puis bon, il y a un joueur aussi qui est en train de monter, c'est Yann Diomandé, l'international ivoirien qui avait déjà brillé avec... La sélection des éléphants lors de la CAN et qu'on suivra, qu'on retrouvera à nouveau au Mondial cet été. Voilà. On va parler encore un petit peu d'Allemagne avec une équipe comme Stuttgart aussi qui a perdu. Toi, c'est une équipe que tu ne suis pas énormément, Stuttgart.
Non, bon, après, c'est la Bundesliga. Moi, je suis l'OM et la Ligue 1 en règle générale. Et puis après, sur les gros championnats européens, je regarde les équipes, le Bayern, Dortmund, là, tous ceux qui sont qui occupent le haut du classement, parce que sinon, si tu regardes tout, après... Ouais.
Non, c'est vrai que c'est vraiment les équipes qui occupent l'espace médiatique au niveau des Coupes d'Europe.
Après, Stuttgart, c'est des bons clubs... de Bundesliga, hein. c'est solide... généralement les matchs de Bundesliga ils sont ouverts, hein.
C'est un championnat très offensif, marque énormément de buts,
c'est vrai qu'on a jamais le temps de s'ennuyer avec des matchs ultra fermés tactiquement, techniquement, où c'est pauvre, donc généralement souvent tu te retrouves avec des 0-0 ou des 1-0, mais là en Allemagne c'est très rare d'avoir des 0-0 et souvent, tu te retrouves avec une moyenne de plus de 3 buts par match. Donc, c'est un championnat prolifique au niveau des buts, quoi.
Et moi, je me suis fait aussi la remarque, c'est que c'est un championnat où il y a beaucoup de joueurs français. J'ai remarqué que les dirigeants du football allemand les directeurs sportifs aiment bien faire leur marché d'hiver ou d'été en France avec énormément de tricolores qui évoluent dans des équipes de Bundesliga.
Pour les jeunes, pour les attaquants, c'est le meilleur championnat pour évoluer et finir sa formation de joueur professionnel. Ils sont friands de la formation française au niveau des attaquants et on le voit de toute manière, tous les attaquants qui sont partis dans les clubs allemands, ils ont tous réussi. Quand on voit Etiquité qui était aussi
à l'Eintracht Francfort, justement tu parles bien de l'Eintracht Francfort parce que là quand je regarde le classement de Bundesliga, je vois que cette équipe de l'Eintracht occupe la 8e place et là actuellement il y a un joueur comme Arno Kalumuendo l'on a bien formé au Paris Saint-Germain, qui est au Stade Rennais la saison dernière. Et Eli Wahi aussi, qui a quitté le championnat d'Allemagne.
Qu'on a vendu à Francfort. Mais
voilà, et qui est revenu en France à l'OGC Nice. Bon, l'OM le retrouvera dès dimanche sur la pelouse du Vélodrome. C'est des bons exemples. Kalimuendo à Eli Wahi au niveau de l'Eintracht.
Non, puis c'est même où tu prends Thuram aussi. Avant d'aller à l'Inter, qui était...
Marcus Thuram, qui a évolué au Borussia Mönchengladbach.
Non, c'est des bons clubs, hein, attention. Je parle au niveau des attaquants. Après, je pense qu'en milieu offensif, tout ça, c'est différent. Et en défenseur, c'est différent. Mais pour les attaquants, c'est très intéressant parce que les attaquants, vu que c'est très prolifique en but, celui qui arrive à marquer énormément de buts, tu te fais de suite suivre par d'autres clubs et été transféré à des fois des tarifs exorbitants, quoi.
Ouais. Voilà, on va terminer le dernier championnat avec l'Italie. Avec d'abord la finale de Coupe d'Italie qui va se dérouler à Rome le 23 mai prochain et qui mettra aux prises l'Inter à la Lazio. Voilà, l'Inter qui perdait 2-0 et qui a gagné 3-2 mardi soir. Voilà. Et la Lazio qui a éliminé l'Atalanta au tir au but.
Logiquement, par rapport à l'affiche, tu mets favori l'Inter. Mais la Lazio,
l'Inter qui va probablement remporter de nouveau le Scudetto en Italie.
Mais par rapport à cette Lazio qui est pareil, impronosticable, parce qu'ils ont eu énormément de bas de matchs loupés complètement dans cette Serie A. Et là, tu les vois gagner en demi-finale de Coupe d'Italie, alors que j'aurais pas mis une pièce sur eux parce que ils ont été médiocres une grosse partie de la saison. Alors après, c'est pareil, on ne suit pas tous les matchs. Est-ce qu'il y a eu énormément de blessés, de suspensions? Comment ça s'est passé au niveau de la préparation, tout ça? Donc, la Lazio est quand même sur une saison en demi-teinte par rapport aux dernières saisons où ils étaient vraiment en haut du tableau. Et là, ils sont un peu...
Avec Maurizio Sarri sur le banc.
Ils sont un peu plus... plus plus dans le ventre mou, on va dire.
Hein. Oui, parce que quand on regarde le classement de cette Serie A, actuellement, ils occupent la 10e place.
Eh oui, tu imagines, toi, la Lazio 10e.
9e, 9e, enfin, autant 9e. Pour moi.
9e, ouais, c'est... Enfin, c'est... Généralement, ils sont, on va dire, ils sont derrière l'Inter, le Milan, la Juve, la Lazio et la Roma. Et ça occupe généralement les 5-6 premières places de la Serie A. Et là, la saison a été plus que compliquée quand même. Hein.
Il y a même cette équipe de Quam qui est devant elle, qui est la bonne surprise
de cette saison.
Voilà, c'est vrai. Cette équipe de Cesc Fabregas qui surprend, mais bon, malheureusement, qui a été éliminée de cette Coupe d'Italie. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que cette équipe de la Lazio, il y a des anciens Marseillais avec Nuno Tavares aussi qui évolue, qui a d'ailleurs raté son pénalty hier lors de ce match.
Oui, mais après, il a peut-être d'autres soucis extra-sportifs.
Bon, on a perdu sa trace depuis qu'il a quitté l'OM. Hein. Voilà. Après, c'est quand même une belle affiche, ce Lazio-Inter.
Ouais, c'est une belle affiche, mais tu vois, je fais un peu le rapprochement entre, par exemple, la demi-finale de Coupe de France d'hier soir entre Strasbourg et Nice, où logiquement, tout le monde voyait Strasbourg gagner, et au final, c'est Nice qui gagne. Et peut-être que sur cette finale-là, Inter-Lazio, tout le monde va mettre l'Inter favori. C'est,
c'est l'outsider qui prendra le dessus et qui
pourra
gagnera.
Peut-être gagner. Voilà, donc... ça sera à regarder avec attention, voir ce qui se passera dans cette finale.
Voilà. Après, on va parler un petit peu du championnat pour terminer cette émission avec ce match de... Attendez, je m'y retrouve. Ouais. Le championnat, la Lazio qui a gagné 2-0 sur la pelouse de Naples le week-end dernier.
Pareil, Naples qui... C'est Antonio Conte. Hein.
Antonio Conte, l'entraîneur.
Je sais pas. Ils ont eu une saison plus que compliquée aussi, avec des défaites surprenantes contre des équipes que logiquement d'habitude ils maîtrisent. Naples, l'exemple type. Hein, Naples, Lazio la semaine dernière, tu mets Naples gagnant et c'est finalement tu te retrouves avec une victoire de la Lazio 2-0. Sans que cette victoire soit contestée par le Napoli, quoi. Donc c'est une saison blanche aussi pour le Napoli, donc à voir ce qui va se passer à l'intersaison. Est-ce que Antonio Conte va rester sur le banc? Est-ce qu'il va y avoir des départs?
Parce que c'est vrai que Antonio Conte, il est pressenti pour prendre la suite de Gennaro Gattuso à la tête de la Squadra Azzurra, la sélection italienne. Donc bon, on connaîtra le successeur de Gattuso le 22 juin, puisqu'il y aura les élections à la Fédération italienne de football. Donc voilà. Un petit mot sur la victoire de l'AC Milan sur la pelouse de Vérone 1-0 grâce à Adrien Rabiot.
C'est pareil. Enfin, le Milan regagne sur les derniers matchs. Ils n'avaient pas des résultats plus que positifs.
C'était compliqué.
Compliqué.
Il y a eu quelques défaites.
Là, ça leur fait du bien. Et, avec cette victoire, ils assurent pratiquement une place qualificative directe en Champions League. Mais après, je ne sais pas si tu as vu, là, il y a un gros scandale qui est en train d'éclater en Serie A, là, du côté de Milan.
Oui, apparemment, il y a quelques joueurs qui seraient impliqués dans une affaire de
proxénétisme. Avec des joueurs français aussi. Nuno Tavares qui serait dedans.
Ouais.
Donc, à voir comment ça va se passer sur les prochaines semaines, savoir ce qui...
Le Milan qui est deuxième de ce championnat de Serie A avec 66 points, juste devant le Napoli.
Ouais,
Et d'ailleurs, juste il y aura un Milan-Juve qui va se disputer dimanche soir à San Siro. Donc, le Max Allegri et Adrien Rabiot qui retrouveront leur ancien club la Juve. Voilà, la Juve qui a gagné 2-0 le week-end dernier face à Bologne.
La Juve a retrouvé son rythme. De normal, on va dire, de victoires. Pareil qu'il y a eu une saison en demi-teinte avec des victoires, des défaites. Pareil, beaucoup de blessés dans l'effectif.
Luciano Spalletti qui devrait être conforté dans ses fonctions pour la saison prochaine de la part des dirigeants de la Juve.
Non, je pense que voilà, bah, ils vont faire une saison blanche et puis ils seront là la saison prochaine, je pense.
Ouais. Avec un but de Kefren Thuram, le frère de Marcus, qui était remplaçant lors de ce match.
Qui a eu du mal aussi à la Juve, c'est Luis Openda.
Ouais, c'est vrai que l'attaquant belge, on parlait de son ancien club, le Rasenball Leipzig, c'est compliqué pour lui.
Ouais. En plus, il y a Milik qui s'est blessé.
Il y a beaucoup d'anciens joueurs du championnat de France qui sont dans cette équipe de la Juve. Je pense notamment à Jérémy Boga qui a quitté l'OGC Nice cet hiver pour rejoindre la Juve. Il y a Jonathan David aussi qu'on a bien connu en France avec le Lille qui jouera la Coupe du Monde avec cette équipe canadienne.
Ça a été un duo d'attaquants qui a eu, je trouve que ils ont eu du mal à évoluer correctement ensemble ou alors l'entraîneur les faisait jouer seuls et quand il y en a un qui sortait il faisait rentrer l'autre, mais ils n'ont pas été alors est-ce que c'est le fait que ça soit la première saison qu'il joue en Italie et que l'adaptation, ça a été plus que compliqué. Mais quand tu vois Jonathan David à Lille, c'était quand même un buteur redoutable. Hein,
ouais.
Et même au Openda, que ce soit...
Avec le Racing Club de Lens.
Quand il était à Lens.
Et à Leipzig.
C'était un buteur. Tous les week-ends, pratiquement, ça marquait. Et là, ils ont eu du mal à trouver leur marque et... sur la fin de saison,
c'est compliqué. Après, même si c'est vrai que ça joue différemment en Italie qu'en France et en Allemagne.
C'est encore beaucoup plus fermé que chez nous ou en Allemagne. Donc, c'est vrai que l'Italie, c'est...
Après, parmi les résultats qui ont retenu mon attention, il y a la victoire de Sassuolo face à Qom. On parlait de l'équipe de Cesc Fabregas qui est un petit peu en difficulté ces derniers temps. L'équipe de Sassuolo, entraînée par Fabio Grosso avec des anciens Marseillais.
Voilà, après, c'est ça. T'as Sassuolo qui a eu un début de saison plus que compliqué, qui sur la fin de saison a trouvé son rythme de croisière et qui marque pas mal et qui gagne les matchs. Donc... c'est dommage, je pense que pour eux, la
Sassuolo qui est maintenu puisqu'ils sont 10e avec 45 points dans ce championnat d'Italie.
Que la saison se termine parce qu'ils vont finir la saison pratiquement à 100% de leurs possibilités.
Ouais. Sinon, tu suis un petit peu le parcours de Daryl Bacola à Sassuolo Ulysse Garcia.
Il les fait jouer quand même, hein, donc. Ouais. Alors, c'est plus compliqué que
là, en ce moment, Daryl Bacola est blessé, donc il ne joue pas. Mais Ulysse Garcia était remplaçant, il n'est pas rentré lors de ce match. Voilà. Il a été mis sur le banc par Fabio Grosso à l'occasion de cette victoire face à Qom.
C'est pareil, pour Daryl, c'est un jeune joueur. Il faut lui laisser le temps de connaître, de comprendre la Serie A, le travail qui est complètement différent qu'ici en Ligue 1. Donc, je pense qu'on le verra certainement un peu plus la saison prochaine, maintenant qu'ils sont maintenus. Après, il y a Koné qui a fait une super saison.
Oui, Ismaël Koné qui jouera la Coupe du Monde aussi avec le Canada, avec Jonathan David.
Qui a fait avec une belle saison avec le Sassuolo. Hein, donc, une bonne petite équipe qui se maintient régulièrement au début, qui a eu du mal. C'était l'ancienne équipe de Roberto De Zerbi, hein, et avec des anciens Marseillais aussi, avec Maxime Lopez, qui a joué X saisons là-bas. Non, c'est un bon petit club maintenant pour Daryl Bacola. Et puis, de toute manière, Ulysse Garcia, il est prêté. Est-ce qu'il y a une option d'achat? Je ne sais pas.
Apparemment, les dirigeants de Sassuolo ont la volonté de le conserver et poursuivre l'aventure avec lui l'année prochaine.
Ils referont certainement après pour le garder. Mais après, on va voir ce qui va se passer pour lui à la fin de la saison. De toute manière, il sera obligé de revenir quand même à la commanderie en début de saison et puis voir s'il est reprêté après à Sassuolo.
Ouais. Après, il y a un joueur qui était mis au banc aussi à l'Olympique de Marseille qui évolue en Serie A. On parlait de l'AC Milan contre le Hellas Vérone. C'est Paul Lirola qui évolue dans cette équipe du Hellas Vérone. et qui joue très très peu. C'est un joueur qui est en perdition depuis plusieurs saisons. Lui qui a déjà connu le championnat italien avec la Juventus et la Fiorentina il y a plusieurs années de...
Malheureusement pour Paul, c'est plus la fin de carrière qui l'attend qu'un futur transfert dans un gros club. Je pense qu'il va y avoir un retour à la vie civile et je pense qu'il aura fait une belle carrière. Et puis voilà, c'est plus que compliqué pour lui maintenant d'être un joueur professionnel, tout simplement.
Et après, il y a le Genoa aussi qui est 13e de cette Serie A avec Ruslan Malinovski, l'international ukrainien, et Vitinha, le portugais qu'on a connu.
Oui, alors après, c'est moi, j'aime bien Malinovski. Je trouve que c'est un regret pour moi de ne pas l'avoir conservé plus longtemps à l'OM, parce que je trouvais que c'était un bon milieu, qui avait une super frappe.
D'ailleurs, il a fait son retour récemment en sélection nationale, appelé par Sergei Rebrov. Mais bon, c'est vrai que l'Ukraine, malheureusement, a été sortie par la Suède lors des barrages de Coupe du Monde. Donc,
après, pour Vitinha, c'est pareil. C'est des joueurs, tu les fais venir jeunes, avec des prix de transfert exorbitants, qui ont du mal à performer de suite en Ligue 1. Et derrière, c'est compliqué pour eux. Et puis après, on a trouvé une porte de sortie pour eux. Ça va aux Génois, ils le gardent, on le transfère bien. Maintenant, c'est à lui à faire son bonhomme de chemin et de réussir du mieux possible pour le reste de sa carrière.
Et la situation du petit Robinho Vas dans la capitale italienne, à Rome,
qui a eu des débuts compliqués à l'AS Roma, parce que sur les premières entrées, il a vendangé quelques situations plus que faciles à mettre au fond. Et après, il a eu une blessure. Et là, après, il a convaincu parce qu'il a marqué. Mais après, c'est pareil, c'est un jeune joueur. Donc, il faut le faire jouer avec parcimonie. Tu ne peux pas être titulaire comme ça à la Roma. Puis en plus...
En ce moment, la Roma, c'est un club qui est dans la tourmente avec les tensions qu'il y a entre l'entraîneur Gianpiero Gasperini et le directeur sportif Claudio Ranieri, qu'on a bien connu en France à l'AS Monaco et à Nantes.
Puis en plus, devant en neuf, ils ont Malen.
Oui, Daniel Malen, l'international néerlandais, arrivé de Aston Villa.
Ouais, et qui est un buteur quand même plus que confirmé.
Il a réalisé un triplé la semaine dernière.
Donc c'est un jeune joueur, Vaz, Robinho. Faut lui faire découvrir la Serie A tranquillement, et puis au fil des saisons là qui vont arriver, il sera peut-être titulaire de plus en plus. Mais tout dépendra de l'entraîneur, si qui ce sera et dans quel schéma tactique il jouera. Mais je me fais pas de soucis pour Robinho. Il arrivera à éclater à la Roma. Hein.
Tu penses que Gasperini va poursuivre son aventure à Rome la saison prochaine, malgré les crispations qu'il y a actuellement avec Ranieri?
Je verrais plus Gasperini rester que Ranieri rester directeur sportif. Parce que Claudio,
il est plus tout jeune.
Il est plus tout jeune.
C'est vrai qu'il a accepté de retravailler dans son club de cœur, qui est la Roma, mais bon.
Je pense que non, c'est peut-être clap de fin pour Claudio à la fin de la saison. Hein.
Ah, c'est vrai qu'en plus, Gianpiero Gasperini qui est arrivé il y a un an seulement de l'Atalanta.
Je pense que non, Gasperini sera sur le banc la saison prochaine, et puis que c'est clap de fin pour Claudio à la fin de saison. Là.
Après, juste un petit mot sur peut-être la succession. On parlait d'Antonio Conte qui va peut-être reprendre la sélection italienne. On parle d'un retour de Roberto Mancini qui évolue au Qatar avec l'équipe d'Al Saad ou éventuellement Thiago Motta qui est sans club, qu'on a connu à la Juve à Bologne.
Pour cette sélection italienne, je verrais plus Mancini ou Antonio Conte. Quoi. C'est deux pointures en Italie au poste d'entraîneur. Ils ont besoin de quelqu'un qui ait de l'expérience, qui sache mener un groupe. Parce que la vie d'un sélectionneur, c'est pas la vie d'un entraîneur de club, hein. Donc
c'est différent.
C'est différent, hein. Donc
là, non, tu trouves pas qu'on fait du neuf avec du vieux, si avec.
Après, tu regardes, même en France, hein, on fait du neuf avec du vieux. Hein. Là, moi, Deschamps s'en va, mais on va prendre Zidane. Zidane n'est jamais venu, mais parce qu'on le veut déjà depuis un moment aussi, on va pas.
Il a pris son mal en patience.
C'est ça, mais on n'innove pas en allant chercher, par exemple, un jeune, quoi. Et tu regardes dans toutes les nations qui ont des grosses sélections de football, ils révolutionnent pas en allant chercher un jeune sélectionneur comme des clubs font le pari sur des jeunes entraîneurs. Là, tu as besoin d'expérience. Tu peux pas non plus aller tenter des paris en allant chercher un jeune entraîneur qui et au final pourrait se planter complètement. Donc je pense que des fois il faut rester humble et puis nommer des entraîneurs, même si c'est pas faire du neuf. Ben, vaut mieux savoir ce qu'on a que ce qu'on n'a pas.
Ouais. Voilà. Bon, il nous reste 5 minutes, juste un petit mot. Là, j'ai regardé le calendrier de Serie A le week-end prochain. Il y a un Bologne-Roma avec Jonathan Rowe qui évolue à Bologne.
Tu as eu du mal en arrivant à Bologne, en découvrant un nouveau championnat. Et au final, je trouve que sur cette deuxième partie de saison, il est bien. Il arrive à marquer des jolis buts. Il est impliqué dans ce qu'il fait là, quand il est titulaire. Donc non, je trouve qu'il fait une deuxième partie de saison plus qu'intéressante.
Voilà. Après, je ne sais pas si les dirigeants et son entraîneur Vincenzo Italiano veulent le conserver. Mais bon, il y a une rumeur qu'il envoie du côté de la Turquie et d'Istanbul. On parle de lui sous les couleurs de Galatasaray pour la saison prochaine.
Je sais pas, c'est possible. Mais après, les rumeurs, hein, faut pas non plus.
Bon, après,
on n'est pas encore en période de transfert, mais si tu fais attention à toutes les rumeurs, y en a des centaines par jour des fois, et il y a des joueurs qui sont annoncés un peu dans tous les clubs, dans tous les pays, donc faire attention à ce qui se trame des fois sur les réseaux, qui des fois que ce sont des rumeurs d'agents pour faire parler sur leurs joueurs parce qu'ils veulent que leurs joueurs soient transférés et que ça se passe mal dans leur club actuel, et on fait souvent des fausses infos pour faire bouger les choses.
Voilà, ben on va terminer cette émission sur l'Italie. Voilà, on dit au revoir à tous nos auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% en Foot Europe. Voilà.
Ciao, ciao, bon week-end.
Bye, bye.